Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis également très heureux d'être avec vous. Lorsque Alexandre m'a parlé au début du séminaire, je lui ai dit que le sujet était peut-être très intéressant, mais il ne m'intéressait pas. Ou tout en est-il qu'il était très loin du sujet dans lequel généralement je m'occupe. Et puis petit à petit, également par rapport, après avoir participé à une réunion, à une séance qui était, je crois, il y a quelques mois, etc., tout d'un coup, donc, je me suis dit, mais en fait, la politique du peuple d'Israël en exil, mais en fait, on pourrait aborder la chassidoute à travers cet angle-là. Et tout d'un coup, ça m'est apparu comme une évidence, quelque chose qui me semblait très vrai et que je voulais donc partager avec vous. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui. Et si nous sommes en petit groupe, pour moi c'est beaucoup plus agréable, moins stressant, et donc je suis très heureux. Je voudrais donc vous inviter à une lecture chassidique, à une réflexion chassidique, sous quelques petits textes que j'ai choisis précédemment. Mais je voudrais leur donner également une dimension, si je peux me permettre, une dimension biographique par rapport à moi-même. Comment est-ce que je suis arrivé à ces textes-là et qu'est-ce qu'ils représentent pour moi, puisque ce sont tous des textes qui sont vraiment très importants, qui font partie de, si je pourrais dire, mon DNA de la Neshama. Donc, excusez-moi si j'aurais donc quelques réflexions également qui sont par rapport à mon parcours biographique, mais je suppose que également ça aidera donc à mieux nous connaître. J'ai grandi à Paris dans les années 70 et début 80. Pour moi, la chassidoute, c'était les Lubavitch. Les Lubavitch, je me permets de parler franchement et directement. Pour moi, les Lubavitch, c'était des barbus avec des pellicules sur le col du costume et qui étaient venus chez nous à la maison pour cachériser la cuisine un été de canicule. C'est-à-dire qu'ils avaient mis une grande bassine comme ça à faire bouillir. Et moi qui étais enfant à l'âge de 10 ans, 11 ans, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que c'est cette chaleur, etc. Mais la chassidout, c'est les chassidim, c'est ça, c'est Lubavitch, ces gens-là qu'on voit également à Saint-Paul, dans le Marais, qui mettent les tefilines aux gens, etc. Bon, première station, première rencontre avec la chassidout. La deuxième rencontre était à la bar mitzvah, où, lorsque j'ai reçu deux livres. Un qui s'appelait « Les récits chassidiques » de Martin Buber, traduit par Pierre Simon. Et l'autre, « Célébration chassidique » d'Elie Wiesel. Comme j'étais curieux, j'ai commencé à lire. Et j'ai aimé les histoires, mais sans plus. Mais ça me semblait comme quelque chose aux antipodes de notre vie quotidienne. Ça me semblait vraiment comme un plongeon dans l'histoire, un plongeon dans l'histoire avant la Shoah, un plongeon en Pologne, un plongeon vers des personnalités qui vivaient dans un monde spirituel qui me semblait tout à fait en dehors du monde concret que je connaissais comme jeune juif parisien donc, à cette époque. Et c'était la deuxième station, la deuxième époque. La troisième rencontre avec la chassidout est lorsque, à l'âge de 18 ans, je suis arrivé en Israël. J'étais dans une yeshiva à côté de Jérusalem, Beth-El, une yeshiva d'influence du Rav Kook, où dans la bibliothèque, j'ai trouvé après quelques années une étagère, qui devait à peu près être le tiers de cette étagère, ou peut-être même un quart, avec le titre chassidout. Il avait quelques livres et j'ai commencé à regarder ces livres-là et j'étais étonné. D'abord, j'étais étonné parce qu'il ne s'agit pas d'histoire. Ce n'était pas des histoires, ce n'était ni célébration chassidique de Wiesel. Évidemment, il n'y a pas seulement des histoires chez Wiesel, mais moi, c'est ça ce que je voyais à l'époque. Et ce n'était pas non plus uniquement des choses de Lubavitch. Mais il y avait d'autres titres, entre autres Sfat Emet, la chassidoute de Gour, des drachot sur des explications sur la parashat HaShavua. J'ai commencé donc à l'âge donc, de 20 ans, 21 ans, à passé quelques heures dans cette bibliothèque, le jeudi soir particulièrement. J'étais seul dans une petite bibliothèque de Yeshiva avec ce livre, Sfat Emet, et je connus de très bons moments d'études, de très bons moments de préparation à Shabbat avec une vision tout à fait différente de la paracha. Ce n'était pas du tout la Pologne, ce n'était pas du tout ce qui me semblait mon premier contact donc avec la chassidout, mais c'était quelque chose qui me parlait et j'espère en quelques instants rentrer dans les détails et plus vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Après quelques temps, j'ai été convoqué, entre guillemets, à travers un ami, par un des rabbins de la yeshiva qui a dit que ce rabbin en question a appris que tu passais du temps dans la bibliothèque à lire le chassidut et il voudrait t'en parler. Bon, je suis allé vers lui, je lui ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit en hébreu, lo zo darkenu. Ce n'est pas notre voie. La chassidut, ce n'est pas notre voie, ce n'est pas notre chemin. Ce n'est pas notre approche de la Torah, ce n'est pas notre vision d'Israël. Je dis, mais ce sont des livres qui sont dans la bibliothèque d'Aïshiva. Il dit, ok, c'est possible, mais ce n'est pas notre vision. Encore une fois, c'est d'une Yeshiva, dans l'orientation du Rav Kook, qui parle beaucoup du peuple d'Israël. Et comme donc m'a expliqué cet enseignant, dans la Yeshiva, en disant, la Chassidut, il me dit, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que la Chassidut ne parle pas du peuple, mais parle de l'individu. Là-dessus, j'ai répondu, mais c'est justement ce qui m'intéresse. C'est justement ce qui me parle. Le fait de, oui, pouvoir parler de la personne, de l'individu, par rapport à nos interrogations et également par rapport à nos expériences.
C'est la pluie ou...
C'est la pluie. Si vous avez arrivé à porter la voix, pardon.
Nous nous sommes séparés... Je n'aurais pas à dire comme de bons amis, puisque c'était un de mes maîtres, mais nous sommes restés donc maître et élève. Je crois qu'il a été déçu de moi, mais quelques années après, lorsqu'il est devenu lui-même Rosh Yeshiva, d'une Yeshiva Tesder à Jérusalem, une Yeshiva qui combine donc les études yeshivatiques avec l'armée, également dans la branche du Rav Kook, et il me téléphone, j'avais dû avoir 27 ans, 28 ans, en me disant, comment ça va, hein, je voudrais que tu viennes... chez moi, dans notre yeshiva, je voudrais que tu enseignes. Ah, bon, quoi ? La chassidut. Je dis, non, mais excusez-moi. L'ozo d'Arkenu, ce n'est pas notre chemin, ce n'est pas notre voie. Il me dit, je sais. Mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est ce que les jeunes demandent maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Que j'amène un chassid pour leur enseigner la chassidut ? Si c'est toi qui viens, j'ai confiance. Et c'est comme ça qu'a commencé donc un premier enseignement de chassidut. Et c'est donc comme ça qu'a commencé donc un cours hebdomadaire de chassidut. Je ne sais pas s'il est véritable chassidique, entre guillemets, puisque qu'est-ce que ça veut dire véritable chassidique. Je ne sais pas si c'est véritable chassidim, ce qu'on y pensait de ce cours, mais tout en est-il, un cours de paracha de la Shavua, avec des livres de chassidut, dans une yeshiva tesder, ben, il y avait une certaine cohérence, disons-le comme ça. C'est une expérience qui a duré un an. Pour moi, c'était une expérience passionnante, pas le fait d'enseigner, mais le fait de préparer ces cours, de voir la paracha. Et j'essayais donc chaque fois d'avoir une approche différente de chassidut. Et pour moi, c'était donc découvrir d'autres livres, d'autres approches, d'autres chitotes dans la chassidut. Ce chemin a continué de façon individuelle. J'ai enseigné de temps en temps la chassidut, mais surtout individuelle, avec également la volonté de voir des endroits, de sentir la présence, si c'est possible, dans les villages de Pologne, et plus particulièrement en Ukraine, pas seulement à Ouman, Rabbi Nachman, où effectivement je suis allé, je me suis senti, comment dirais-je, pas bien, mais plus particulièrement dans la ville de Medjugorje, qui est la ville du Baal Shem Tov, de ses petits-fils, de son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman, qui a grandi à Medjugorje en Ukraine avant d'aller ensuite à Breslav et finalement donc à Ouman. Et j'ai senti comment ces endroits me parlent, dans ces endroits on comprend, si j'ose me permettre de dire, on comprend les choses différemment. Et je donnerai peut-être un exemple un peu plus tard lorsque nous rentrerons vraiment donc dans le Limoud, vraiment donc dans l'étude. Donc voilà, et ça me semble très loin de cette première rencontre avec la chassidut, avec les histoires chassidiques de Buber. Pas seulement au niveau par rapport à l'histoire, mais également peut-être par rapport à l'approche de Buber. Ce n'est que plus tard, lorsque j'étudie ensuite à l'université, que j'ai compris et que je me suis rendu compte comment l'approche de Buber était une approche très sociale, très culturelle. La chassidut, comme une des facettes de la culture juive, pas seulement de la religion juive, mais de la culture juive dans le sens général, la chassidut comme une certaine révolte par rapport à... par rapport au judaïsme traditionnel, disons-le comme ça, et la chassidut qui mettait l'accent, chez Buber, l'accent très fort sur les relations humaines. Et C'était l'approche de Buber, qui est une approche qui correspondait beaucoup au renouveau des études chassidiques en Israël, tel qu'il s'est produit au début du sionisme, ce qu'on appelle maintenant le néo-chassidisme, une volonté de retourner à des sources judaïsmes, mais qui ne sont pas les sources de l'halakha, et qui représente même une certaine vision qui est différente, pour ne pas dire opposée, à la vision normative du judaïsme traditionnel qui est centrée autour de la halakha. Cette vision donc du chassidisme social de Buber, qui correspond également à la deuxième alia en Israël, l'alia des années 1905-1906 jusqu'à la Première Guerre mondiale, les kibbutzim, c'est une approche que Gershom Scholem, un grand universitaire, qui lui a grandi dans un milieu très loin de la chassidoute, en Allemagne, entre les deux guerres, dans un milieu juif assimilé, mais qui a découvert pour lui également comment la chassidoute était en fait quelque chose de différent. Et pour Gershom Scholem, la chassidoute était une vision mystique du judaïsme. Certes, Gershom Scholem également a été attiré par les aspects contre, différents, neutres par rapport à la halakha également. Là-dessus, Gershom Scholem s'est penché beaucoup, et pour lui, c'était important de voir comment, de la même façon qu'il voit dans le sabbatisme, Gershom Scholem voit dans le sabbatisme donc une forme de judaïté qui est légitime et qui comprend le judaïsme et qui demande à vivre le judaïsme différemment de la façon de la halakha. De la même façon, Gershom Scholem voyait donc dans la chassidoute un élan mystique qui propose donc une vision et une expérience différente du judaïsme. Je termine donc ces petites réflexions personnelles. Je me permets simplement de rajouter que je n'ai pas reçu dans les années... Lorsque j'ai fait ma bar mitzvah à 78 ans, je n'ai pas reçu le livre de Catherine Chalier. 78, c'était le début, n'est-ce pas? Vraiment le début. Ce sont des livres que j'ai connus plus tard à l'université. Donc, je me permets. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas cités par rapport à ces premières étapes. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la chassidoute? Eh bien, ce que j'ai trouvé, en fait, ce n'est pas simplement une éthique, ce n'est pas simplement une vision, une façon de vivre le judaïsme, mais c'est surtout, je parle par rapport au niveau personnel, mais c'est surtout une éthique qui repose sur une philosophie. Une philosophie, pas dans le sens philosophie du développement personnel, pas du tout dans ce sens-là, mais dans le sens philosophique, du terme philosophique. C'est-à-dire une éthique qui repose sur une réflexion par rapport à la possibilité de connaître le monde et par rapport à l'essence même du monde, c'est-à-dire d'un côté épistémologie et de l'autre côté ontologie. Et ça, c'est quelque chose que je reconnais que je n'avais pas vu précédemment, que je ne connaissais pas précédemment. Et lorsque je me suis rapproché donc plus tard, il y a disons 20 ans, 20 ans, un peu plus, lorsque je me suis rapproché donc des textes chassidiques, lorsque j'avais également donc un bagage philosophique que j'avais acquis à l'université, eh bien, j'ai compris les choses tout à fait différemment et j'ai ressenti donc le poids, l'importance ou tout simplement le sérieux qu'il y a derrière donc les récits chassidiques et derrière les drachot, les enseignements chassidiques. Je voudrais donc on rentre, si c'est possible, donc, dans les textes en soi. Et je vous propose donc autour de ces quatre textes, en espérant que nous pourrons également voir le quatrième, de faire ce chemin. Ce chemin qui commence par l'éthique et qui ensuite entre donc dans l'ontologie, dans les choses en soi. Le premier texte, ces textes qui se trouvent donc sur cette... fiche de route. Ces textes sont donc des sources des premières générations de la chassidoute. Peut-être quelques petits repères historiques de façon à voir où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous nous trouvons. Le Baal Shem Tov, personnage très intéressant, avec beaucoup de points d'interrogation, non pas sur son existence, puisque ça y est, elle a été trouvée au point de vue des preuves historiques, comme quoi se trouvait effectivement un docteur Israël, un Israël qui était docteur, qui était médecin. Il était médecin comme on était médecin à l'époque, c'est-à-dire qu'il était Baal Shem. Il utilisait Baal, il est le maître, Shem du nom. Il utilisait le nom de Dieu pour guérir et il s'avère que c'était un Baal Shem Tov, c'est-à-dire c'était un bon médecin. Dans les archives de la ville de Mejibosh se trouve donc la liste des habitants juifs de la ville. Mejibosh aujourd'hui est un petit village, mais à l'époque du Baal Shem Tov, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, c'était une ville qui était considérée comme une ville moyenne, une ville importante. C'était une ville qui était donc dans une partie aujourd'hui c'est l'Ukraine. À l'époque c'était presque avant c'était un peu même une partie de l'Empire ottoman. Et donc le Baal Shem Tov était donc un médecin, était donc quelqu'un qui s'occupait donc des gens, qui les guérissait. Peut-être quelque chose comme avec des formules, des incantations, peut-être également avec des remèdes également. C'était donc le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est décédé en 1760. Lorsqu'on parle de la Chassidut, lorsqu'on parle du Baal Shem Tov, on parle également de la Mitnagdut, ceux qui sont opposés à la Chassidut. Il est important, au point de vue historique, de voir que les Mitnagdim, qui étaient donc en Lituanie, plus au nord, effectivement, c'était opposé de la Chassidut. Mais ce n'était pas à l'époque du Baal Shem Tov, puisque la première excommunication contre certains chassidim de la ville de Brody était, je crois, entre les années 72-73, je ne suis pas sûr. Donc c'était donc quelque chose comme 15 ans après que le Baal Shem Tov soit donc décédé. De la ville du Baal Shem Tov jusqu'à Vilna, où se trouvait donc, non pas le Gaon de Vilna, qui également était, mais les Parnassim, c'est-à-dire donc les dirigeants de la communauté de Vilna, c'est une distance de plus de 1500 kilomètres. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe tellement loin, mais on raconte des choses, on rapporte des choses. C'est donc pour ça que, sans doute, cette excommunication se basait sur des choses qui ont été rapportées et pas vraiment par rapport à des témoins qui ont vu ce qui se passait. Pas sur leurs écrits, puisque à l'époque, il n'y avait encore rien d'écrit. Le Baal Shem Tov n'a rien écrit. Le Baal Shem Tov a laissé des enseignements qui ont été rassemblés par ses disciples et qui ont été publiés dans la période de 15 ans, 20 ans, 30 ans après son décès. On parle généralement de plusieurs générations de chassidut. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Ces générations, ces toladot, ne sont pas comme les générations de la Torah. Ce sont des générations qui, au point de vue historique, dépendent effectivement de ce qui s'est passé. Donc si le Maguide de Mezritch est celui qui est considéré comme l'élève du Baal Shem Tov, qui est la deuxième génération, le Maguide de Mezritch, lui, est décédé 10 ans après la mort donc, du Baal Shem Tov. Donc cette deuxième génération, elle est très brève. Et la troisième génération, ensuite, donc, est une génération qui, oui, a plus de 20 ans, 30 ans, et la chassidoute a commencé à se développer, également un peu au nord, et également vers les autres directions. C'est l'époque de la chassidoute de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. C'est également le Baal HaTanya, le premier, donc, le Rabbi de Lubavitch. Toutes ces figures, donc, là, sont des figures qui sont deuxième, troisième génération, donc, après le Baal Shem Tov. Les textes que nous avons en face de nous sont des textes de ces premières générations. Le premier texte que nous avons en face de nous est un texte d'un qui fait partie d'un petit corpus intitulé Tzavat Haribash. Tzavat, c'est le testament. Il s'agit d'un testament spirituel. Et Tzavat Haribash, c'est Tzavat Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est donc une partie d'un testament spirituel qu'aurait laissé le Baal Shem Tov. Ce n'est pas lui qui a rédigé les choses, ce sont des élèves qui ont rédigé donc Tzavat Haribash à travers des enseignements, des choses qu'ils ont entendues du Baal Shem Tov. Et c'est un petit texte de quelque chose comme, disons, 5 pages, 7 pages, qui est divisé en petits paragraphes. Et voici un des paragraphes. Elle est en hébreu, on va le traduire et on va essayer donc de l'expliquer. Ce texte interprète un des versets de Tehilim, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Shiviti Hashem le Negdi Tamid, c'est un verset donc de Tehilim qui signifie Shiviti, je fixe, je suis toujours Shiviti, chavé, égal, en face. Shiviti Hashem je fixe Hachem, l'Enegdi, en face de moi, Tamid, toujours. Ce verset figure, est un verset qui figure beaucoup dans la littérature du Moussar, la littérature donc de l'éthique, et pas simplement, puisque en fait, dans le Shulchan Aruch, le premier chapitre, le premier paragraphe du Shulchan Aruch, la première remarque du Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui sont les petites remarques de la halakha Ashkenaz du Shulchan Aruch. Si le Shulchan Aruch commence par la Mishnah de Pirkei Avot, comme quoi il faut se réveiller le matin, avoir de la force, etc. Donc si le Shulchan Aruch, le livre de la loi, commence d'abord par une remarque éthique, se réveiller et avoir la force et consacrer sa journée au travail donc l'Ifnei Hachem devant Dieu, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, rajoute ensuite « Shiviti Hachem le Negdi Tamid Zeklal Gadol Batorah » C'est un principe très important. Donc, il figure également là-bas, on reviendra encore un peu. Mais qu'est-ce que nous dit le Baal Shem Tov? Quel est l'enseignement du Baal Shem Tov par rapport à ce verset? Je mets entre parenthèses, si j'ai précédemment apporté donc le Mishnah, le Rama, Rabbi Moshe Isserles dans le Shulchan Aruch, c'est parce que, et pour le Baal Shem Tov, et pour les gens qui sont autour du Baal Shem Tov, Shiviti Hashem Negdi Tamid est lié également par rapport à ce chapitre du Shulchan Aruch. C'est un texte qu'on connaît, c'est un texte qu'ils ont vu, c'est un texte qui est étudié souvent. Mais le Baal Shem Tov va lui donner une interprétation différente. Shiviti Hashem Negdi Tamid, je reviens donc à notre texte. Shiviti, la Shon Ishtavut. Shiviti, il faut le comprendre dans le sens de être égal. Ishtavut. Shavez est égal. Ishtavut, itpael, c'est être égal. Se rend être égal. C'est-à-dire, explication. Bechol davar ameora. Tout ce qui arrive à l'homme. Hakol shavez etzlo. Encore une fois, la racine, shavez. Tout est égal à ses yeux. Ben Benyan Shemeshabrim Ben Adam, que ce soit s'il s'agit d'un compliment que les gens lui font, oh, mais vas-y, Noto, ou bien s'il s'agit d'une humiliation. Pour lui, tout est égal. Vechen Bechol Sharadvarim, et également pour les autres choses de la vie. Vechen Bechol Amachalot, et également par rapport à la nourriture. Ben Sheochel Ma'adanim, qu'il s'agisse de mets délicats qu'il va manger, ben she'ochel she'ar dvarim, ou s'il s'agit d'autre chose, akol yishve be'enav. Tout cela sera égal be'enav à ses yeux. Kevan she'husar hayetzer hara mimenu mikol vakol. Comment est-ce possible que cet homme peut donc être indifférent, disons-le comme ça, premièrement, on va essayer ensuite après d'approfondir cette notion, mais comment donc l'homme peut être indifférent à ce qu'on dit autour de lui par rapport à lui-même, ce qui lui arrive, des bons événements, des mauvais événements, ce qu'il mange, comment est-ce qu'il peut prendre, voir toutes les choses de la même façon? Kevan shehusar hayetzer hara mimenu mikol vakol. Le yetzer hara a complètement disparu de lui. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara, ou ça c'est tout un autre sujet évidemment, il nous est clair, n'est-ce pas, que le Yetzer Hara fait partie de l'existence humaine. Que le Yetzer Hara, ce mauvais penchant ou cet élan qui nous éloigne de la Torah, des mitzvot, de Dieu, fait partie du quotidien. Cet homme-là, qui est Shiviti Hashem le Negdi Tamid, qui voit Dieu en face de lui dans le sens où Akol Shave Etzlo, tout est égal pour lui, cet homme-là est un peu différent, extra expérience humaine. Il est en dehors. Le Yetzer Hara a complètement disparu de lui. V'chol davar sheyera lo. Aussi, à chaque situation, il dira à cet homme, Haloze hu me'ito itbarach. Mais cela vient de Dieu. Imbeenavagun, si c'est des rats à ses yeux, veut rouler. Trois petits points. C'est-à-dire, si c'est désirable à ses yeux, eh bien, je l'accepte. Que ce soit ça ou que ce soit ça, je l'accepte, puisque halozehu meito yidbarach, puisque cette chose-là vient de Dieu. Vechol kavanato le shem shamayim, Aussi, toutes ces actions, bien que Kavanato, ce n'est pas simplement les actions, mais c'est surtout l'intention qu'il y a derrière les actions, donc toute son intention et toutes ses actions, Kol Kavanato, le Shem Shamayim, est dédié au ciel. Aval Mitzad Atzmo, par rapport à lui-même, En Chilouk. Il n'y a pas de différence entre telle chose, tel événement, telle parole. Vezeu Madrega Gdola Meot. Et effectivement, c'est donc un très haut niveau spirituel. Alors, de quoi il s'agit-il dans ce texte? Tout d'abord, au niveau de l'expérience qui nous est transmise. Cette expérience qui, au point de vue philosophique, nous rappelle un peu la position du stoïcisme. La position du stoïcisme chez les Grecs, et ensuite chez d'autres philosophes, d'autres éthiques, cette position qui demande à prendre recul du monde de façon à... Et je ne vais pas dire de façon, c'est pas forcément pour que ce soit de façon, mais en prenant recul du monde, donc, on arrive également à ne pas être blessé par le monde. Je m'éloigne des choses de mon quotidien, je suis prêt à vivre chaque chose sans qu'elle me bouleverse, que ce soit de tel côté ou de tel côté. J'ai assez de force intérieure pour accepter tout ce qui me vient. Il me semble que là, il y a quelque chose en plus. Ce qu'il y a dans ce texte, ce qu'il y a d'après cet enseignement du Baal Shem Tov, c'est Hakol Meito Yidbarach. Cette madrega qui est très élevée, ce très haut niveau spirituel, cet homme qui est Usar Yetzerara Yemenu, cet homme où le Yetzerara qui fait partie donc de notre existence, pour lui il n'y a pas de Yetzerara, cet homme est un homme qui se sent en face de Dieu tout le temps. C'est un homme pour qui la présence de Dieu est une évidence. La présence de Dieu qui n'est pas parce qu'il voit ce qui est impossible de voir, mais parce qu'il accepte chaque chose qui lui arrive en disant ce qui m'intéresse, ce qui me touche, ce qui me parle, ce n'est pas la chose elle-même, mais le fait que la chose vient de Dieu. Et si la chose vient de Dieu, ce n'est pas parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas que je cherche l'origine et j'ai trouvé donc l'origine, elle vient de Dieu, mais c'est que je cherche à rencontrer la présence de Dieu à travers ces choses-là. Et c'est comme ça que je vis le Shiviti Hashem Negdi Tamid. C'est comme ça que je vis ce verset qui est généralement compris comme étant le verset qui parle de voir Dieu en face de nous. Dans certaines synagogues, on peut voir sur le pupitre du Chazan, sur le pupitre de l'officiant, Shiviti Hashem Negdi Tamid. Lorsque l'officiant prie, qu'il voit ce verset, qu'il se concentre, qu'il imagine qu'il se trouve en face de Dieu. Dans certaines synagogues, ce n'est pas simplement sur le pupitre de l'officiant, mais c'est également peut-être sur un des côtés. On l'a dit tout à l'heure, il figure également au début du Shulchan Aruch. Le Rama, Rabbi Moshe Iserles, le rapporte. Mais quelle est l'explication que le Rama lui donne? Rabbi Moshe Iserles lui dit « Shiviti Hashem l'Negdi Tamid, Zeklal Gadol Batorah ». Pourquoi? Parce que lorsque l'homme s'imagine, c'est les mots, il s'imagine que Dieu est en face de lui, eh bien, il serre les coudes. Eh bien, il ne se laisse pas aller. Eh bien, il fait les mitzvot. Eh bien, il n'écoute pas son Yetzerara. Pour le Rama, Shiviti Hashem l'Negdi Tamid, c'est un moyen qui permet à l'homme de se renforcer. Et il me semble que pour le Baal Shem Tov, en tout cas d'après l'élève qui nous rapporte les paroles du Baal Shem Tov, Shiviti Hashem l'Negdi Tamid, là, il ne s'agit pas d'un moyen, mais il s'agit d'une conséquence. Il ne s'agit pas d'un moyen qui me permet de me renforcer dans mon lien avec les mitzvot. Il ne s'agit pas d'un moyen qui me permet d'avoir plus de yirat shamayim, de crainte de Dieu, qui va donc m'éloigner de la force, parce que je m'imagine que Dieu est en face de moi, même si je suis au milieu de pécheurs, je suis avec Dieu en face de moi, donc je ne vais pas me permettre de faire telle et telle et telle chose. Pour le Baal Shem Tov, ici, c'est quelque chose de différent. Il s'agit d'un homme qui réagit comme ça à ce qui lui arrive, parce que pour lui, Hakol Meito, dans sa conscience, tout vient de Dieu. Et si tout vient de Dieu, c'est ça ce qui m'intéresse. Ce n'est pas la chose en soi, mais c'est le fait de Shiviti Hashem, Liot Shavé. Être, pas simplement en face, mais être égal. Égal, pas au niveau du niveau, mais égal par rapport à la possibilité donc, d'être en face. Donc ça, c'est peut-être la première différence par rapport donc, au Rama. Mais essayons de construire, essayons donc de voir un autre niveau un peu plus profondément, si je peux me permettre. Sur quoi repose cette explication du verset Shiviti Hashem, la Neguit Amit? Sur quoi elle repose? Évidemment, au point de vue linguistique, comme toutes les drashot, il y a toujours un mot. Là, le mot, c'est donc Shavé, Shiviti. Est-ce qu'il s'agit de voir, de regarder? Ou bien est-ce qu'il s'agit Shavé, d'être égal à la même chose? Peut être compris comme ci, peut être compris comme ça. Et ça, c'est par rapport au mot. Et mis à part, donc, le niveau de la dracha, sur quoi repose? Sur quelle idée repose donc ce texte du Baal Shem Tov? Est-ce qu'il s'agit simplement donc d'une expérience religieuse qui est vécue de telle façon par cet homme, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une réflexion philosophique? Cette réflexion philosophique il s'agit donc d'une réflexion philosophique qui réagit à la question fondamentale, qui est la question de base, au départ de la philosophie, au départ de l'ontologie, au départ de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Dieu? Et par rapport à cette question de base, qui est la question qui est à la base de la philosophie occidentale, lorsque Descartes dit « Est-ce que je peux vraiment comprendre ce qui se passe autour de moi ?» Lorsque je regarde par la fenêtre et je vois ce moine qui se passe, et je sais que c'est un moine qui est recouvert comme ça, est-ce que c'est vraiment un moine ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui s'est déguisé? Ces questions, donc, qui sont des questions d'ordre épistémologique, comment je peux savoir et comprendre le monde, sont des questions qui reposent d'abord sur des questions d'ontologie. Qu'est-ce que le monde? Et sur cette question, qu'est-ce que le monde, qui me semble à l'origine de cette dracha de Shiviti Hashem Neguit Amid, je vous invite à voir le texte suivant, qui est rapporté par Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, un des élèves du Baal Shem Tov, donc nous sommes dans cette deuxième génération. Et il s'agit d'un texte rapporté avec plusieurs variantes, et par lui, et également, il figure dans d'autres textes racidiques de cette même époque. Encore une fois, cette même époque, nous sommes donc à la fin du XVIIIe siècle, okay, dans les années 1790. Et ce texte parle d'un machal, d'une allégorie, machal à Harmon, l'allégorie d'une forteresse, d'un château. C'est une allégorie qu'on trouve ô combien dans la littérature juive, dans le Midrash, qui parle du monde comme étant, Abira comme étant un château que Dieu aurait construit, c'est le Midrash Rabbah, Aleph, Bereshit, Mamash. On le retrouvera également, ce Machal Harmon, cette allégorie donc, du fameux palais, également dans le Moré Nevouchim, dans le Guide des Égarés de Maïmonide, où il s'agit donc de quels sont les différents niveaux d'études physiques, métaphysiques, la Torah avant les sciences. Quel est l'ordre de ces différentes sciences? Où se trouve vraiment la chambre, la pièce du palais où se trouve le roi. Et voilà qu'il apparaît également donc au nom du Baal Shem Tov, mais évidemment avec une variante chassidique qui touche justement cette fois-ci cette question fondamentale qui est qu'est-ce que le monde? Shamati Mimori. J'ai entendu, il a été rapporté, Mimori, par mon maître. Machal chez Amar Kodem Tkiyat HaShofar. La parabole suivante qu'il raconta avant la sonnerie du shofar. Haya Melech Echad, il était une fois un roi, Chacham Gadol, qui était très intelligent. Et ce roi donc, Asab Achizat Enaim, Chomot, ou Migdalim, ou Shearim, ce roi donc a construit une forteresse avec des murailles tout autour, avec Migdalim, des donjons, des tours. Mais tout cela, il l'a construit Be'achizat Enaim, Achezat et Naïm, c'est-à-dire, c'était un tour de magie. C'était une illusion. Cette forteresse, elle était visible. Mais en fait, elle n'existait pas. Et ce roi, donc très intelligent, après avoir construit cette forteresse tellement particulière, Tziva lefazer, bechol shar veshar, otsarot amelech. Le roi a ordonné à ses sujets, qu'on dépose à l'entrée donc de chaque portail qui se trouve dans ces murailles, que l'on dispose là-bas, otsarot amelech, des coffres avec une partie du trésor du roi. Et ce roi a également ordonné chez Yavo Elav qu'on vienne le voir, à l'intérieur du palais. Veyesh she'alach ad sha'ar echad vechazar. Certains sujets se sont approchés puisqu'ils ont entendu que le roi les invitait, le roi ne les invitait pas, le roi leur ordonnait de venir. Et donc ils se sont approchés, ils sont arrivés à la muraille, ils ont continué, la muraille, où se trouve le portail, par où est-ce qu'on rentre? Aval, Khazar, mais ils sont revenus. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Parce que lorsqu'ils sont arrivés au portail, lorsqu'ils ont vu les coffres, lorsqu'ils ont vu le trésor du roi, il s'agit de pièces d'argent qui sont sans doute frappées à l'effigie du roi. Ils ont vu le roi sur les pièces. Ils sont repartis. Peut-être qu'ils ont pris des pièces également. C'est possible. L'histoire ne nous le dit pas. Mais ils sont repartis. Ad shebeno yedido. Jusqu'à ce que finalement, parmi tous ces sujets qui se sont approchés pour venir du roi, mais qui sont repartis avec les pièces. Ad shebeno yedido. Son fils, son ami, son fils aimé, son fils proche, itametz meod, c'est vraiment efforcé chez Elech El Aviv HaMelech. C'est vraiment efforcé pour arriver et pour continuer, donc pour arriver jusqu'à son père le roi. Et lorsqu'il est arrivé en face du roi, Azra'a she'en shum mechitza mafsik. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'en fait, aucune muraille ne le séparait du roi, car en fait, tout n'était qu'une illusion. Donc c'est cette histoire qui ne figure pas comme ça dans le Midrash, on l'a dit, dans le Midrash Rabbah, le palais, c'est le cosmos, c'est le monde qui est organisé d'après les lois, le logos. Le Midrash, c'est Dieu qui crée le monde en 6 jours, en 7 jours avec le Shabbat, chaque jour avec sa particularité, qui rentre les lois à l'intérieur du monde. C'est le monde qui existe dans le Midrash. Pour le Baal Shem Tov, ce roi crée une forteresse. Et cette forteresse, il nous semble qu'elle existe. Mais en fait, elle n'existe pas. Ce roi crée la forteresse de telle façon et demande à ses sujets de venir. Nous essayons de venir, mais nous nous heurtons à la muraille. Aïe, ça fait mal. Alors on continue et on cherche également la porte, puisqu'il y a une muraille, mais il y a également une porte. Et on trouve la porte. Mais à ce moment-là, il y a cette petite chose, ce petit détail un peu bizarre qui se trouve. Mais parallèlement au fait que le roi a demandé de venir, le roi a également laissé du trésor du roi à chaque porte. Et les gens voient ce qui se passe, voient les pièces, voient le trésor, et ça leur suffit. Ils laissent tomber. Ils ne continuent pas. Ils reviennent. Ils retournent chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Beno Yochido, le fils du roi, est celui qui arrive. Acheitametz Mod, il a dû s'efforcer. Pourquoi est-ce qu'il a dû s'efforcer? Quel est le problème? Pourquoi s'efforcer? Il y a une porte. Il y a une possibilité d'entrer. Il s'efforce. Il arrive en face du roi. Et lorsqu'il arrive en face du roi, on imagine l'étreinte avec le roi. Non, ce n'est pas ce qu'il racontait. Lorsqu'il arrive, il regarde derrière et il se rend compte qu'il n'y a pas de muraille, il n'y a rien. Alors s'il n'a rien, qu'est-ce qu'il a fait? Alors essayons de reprendre ce machal, de reprendre cette parabole, d'après la façon dont Chazal raconte également tout leur... Chaque fois que Chazal nous raccorde des machals, nous raccorde donc des paraboles, il y a une grande importance aux petits détails. Et il s'agit donc de comprendre quelle est la clé pour comprendre cette parabole, quel est le machal et quel est le nimshal, qui correspond à quoi. Alors je vous demande donc votre aide là-dessus. Première question, elle est facile. C'est qui le roi? Le roi dans le machal, le roi dans le parabole. Eh bien, le roi dans le nimshal, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Bon, ça, c'était la question facile. La forteresse qui a été construite par ce roi qui est très intelligent. À première vue, la forteresse serait donc
le monde.
Et le roi a demandé à ses sujets, c'est-à-dire aux hommes, de venir vers lui, de s'approcher vers lui. Faites attention.
Vous êtes sûr que c'est le monde? Vous êtes sûr que c'est le monde?
Quelle est votre proposition?
Plutôt le Nisayon. C'est-à-dire que ici, ce qui ressort, c'est pas tellement le monde en tant que monde. Tout ça, en plus, on aura du mal à dire que c'est une illusion, n'est-ce pas?
Pas tout à fait, n'est-ce pas?
Mais c'est surtout la confrontation à quelque chose. Alors ici, le mur, la muraille, la tourelle, il y a une confrontation à quelque chose.
Il y a une confrontation, mais il y a des portes. La muraille, les portes sont ouvertes. Il n'a pas fermé les portes. Ce n'est pas un mural. Il n'y a pas le pont-levis qui est dressé avec des soldats qui empêchent les gens et qui tirent les flèches pour empêcher les gens de rentrer. Il n'y a pas. Il me semblerait que si on voudrait prendre le Nisayon, alors peut-être que ce n'est pas la peine, c'est-à-dire le Nisayon, si ce serait l'idée, ce n'est pas la peine de parler donc d'une muraille, d'une forteresse, de tout ça, mais on pourrait parler donc d'un long chemin que l'homme devait faire avec beaucoup de choses qui l'ont empêché. On se rappelle par exemple le Midrash qui nous raconte que lorsque Abraham était sur le chemin de la Hakeda, il y a eu le sacrifice d'Isaac, plusieurs choses qui l'ont empêché de s'approcher. Là, il s'agit de quelque chose qui existe à première vue, donc cette muraille qui est là. Et donc le roi donc a demandé donc aux hommes de s'approcher. Et finalement, il n'y en a qu'un qui arrive. Celui qui réussit vraiment à s'approcher, c'est Beno Yechido, c'est le fils du roi, ce fils bien-aimé. Mais c'est quoi l'histoire des trésors? C'est quoi l'histoire des trésors? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est en fait que ces trésors qui se trouvent? Alors, le trésor, c'est le monde matériel. Et les murailles, c'est quoi? Ce n'est pas le monde matériel?
Le passage éventuel.
Le passage, c'est la porte. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on passe. À première vue, les murailles, c'est le monde matériel. Dans le monde matériel, il y a des trésors. Il y a des trésors du roi. Il y a des trésors du roi qui font beaucoup de bien à ceux qui trouvent les pièces du roi. Dans le monde matériel, d'après la vision du judaïsme, d'après la vision de la Torah, il y a effectivement des pièces avec l'effigie du roi. Il y a des choses qui sont matérielles, mais qui en même temps, elles sont liées également. Elles viennent du roi. Elles font partie du trésor du roi.
Oui, et puis elles reviennent à ceux qui ont quand même le mérite de franchir ces murailles et de franchir...
De commencer le chemin. Voilà. De commencer le chemin. De quoi s'agit-il ? Les mitzvot, d'un côté des actions matérielles, des actions qui existent, des choses que nous faisons avec le corps. Mais ce sont des choses que nous faisons avec le corps, mais qui ont également une dimension spirituelle. Dans un autre endroit, le Baal Shem Tov, c'est dans le premier corpus, dans Tzavat Arivash. Le Baal Shem Tov interprète le mot mitzvah d'après le mot tzavta, c'est-à-dire non pas de voir la racine du mot mitzvah telle qu'on la comprend habituellement par rapport à tzivoui, ordonné. La mitzvah est un commandement, la mitzvah est quelque chose que Dieu a ordonné à faire, mais la mitzvah est tzavta, la mitzvah est d'aller ensemble. La mitzvah est ce qui permet de réunir ensemble l'homme et Dieu. Dans la mitzvah, il y a une dimension spirituelle et une dimension matérielle. La mitzvah est faite avec notre corps, la mitzvah est faite avec quelque chose du monde, avec une partie du monde, à un moment du monde. C'est également la dimension spatiale qui fait partie donc de notre monde qui a été créé, mais elle a également un potentiel religieux, un potentiel spirituel. Il y a donc des trésors dans le monde, dans cette muraille. Il y a donc des trésors. Mais qu'est-ce que le roi a demandé ?
J'ai pas compris la différence entre le niveau de la racine, le
La racine habituelle de mitzvah, c'est tzivouy. Tzivouy. Le tzavot. Le tzavot, il s'agit donc d'ordonner. Okay? Le tzavot, c'est donc ordonner. On ordonne, il y a donc la, d'un côté l'autorité qui ordonne et d'un autre côté, donc celui qui fait la chose. Le mot tzavta signifie ensemble. Il s'agit de rassembler. Tzevet, c'est une paire de deux personnes. Tzvat, c'est également les tenailles. Les tenailles, c'est-à-dire deux parties de fer qui sont ensemble. Okay, donc, et pour le Baal Shem Tov, donc, la mitzvah, c'est l'acte qui permet à l'homme de se rapprocher de Dieu. Okay, d'être ensemble, d'être avec Dieu. Mais revenons à notre parabole donc, de cette muraille. Est-ce que le roi a demandé qu'on prenne le trésor? Ou dans le Nimshal, dans l'interprétation, est-ce que le roi demande que nous faisions les mitzvot, que nous fassions les mitzvot, pardon? Dans l'histoire, le roi demande qu'on vienne le voir. Le roi demande qu'on vienne le voir. Comment est-ce qu'on va voir le roi? Eh bien, on va arriver, on va toucher la muraille et continuer, chercher jusqu'à ce qu'on trouve l'entrée. On va entrer, et on va arriver au roi. C'est ça ce que le roi a demandé. Mais c'est ça ce que les gens ne font pas. La plupart des gens s'arrêtent lorsqu'ils ont trouvé le trésor. La plupart des gens s'arrêtent lorsqu'ils ont trouvé la mitzvah. S'arrêtent lorsqu'ils ont peut-être trouvé également la dimension spirituelle de la mitzvah. Se suffisent dans cette dimension spirituelle de la mitzvah de voir l'effigie du roi qui est tracée sur la pièce. Et puis on a oublié le roi, la rencontre possible. Ça suffit. On prend la pièce et on revient à la maison. Nous sommes des juifs des mitzvot. Nous ne sommes pas des juifs de Dieu. Nous sommes des juifs qui faisons les mitzvot, qui ne faisons pas par rapport au tzivouy, qui ne faisons pas uniquement parce que nous sommes obligés. Non, nous réjouissons de la chose, de la même façon que ces gens étaient contents donc, d'avoir trouvé les pièces que le roi leur avait données, en disant, voilà, vous avez mes pièces qui sont là. Jusqu'à ce que le fils du roi dit non, c'est pas ça. Pourquoi itametz meod? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'efforcer tellement? Bien peut-être parce que finalement, si c'est le seul qui réussit alors que tous les autres se sont arrêtés précédemment, peut-être parce que c'est vraiment très tentant. C'est très tentant de se suffire au trésor du roi. C'est très tentant de se suffire à la dimension spirituelle que la mitzvah peut apporter dans la vie d'un juif qui pratique les mitzvot. D'avoir à donner un sens à sa vie, donner la possibilité de sentir que nous sommes avec les pièces du roi. Nous sommes dans ce monde de Dieu. Même si nous sommes chez nous, lorsque nous revenons ensuite après à la maison, après avoir pris donc les pièces. Mais nous oublions que ce que nous a demandé le roi, ce n'est pas de garder les pièces, ce n'est pas de regarder le trésor, mais c'est de venir vraiment vers lui. Et lorsque Beno Yechido, lorsqu'il a donc ce fils, a réussi donc à s'efforcer, a réussi à résister à la tentation de se suffire des mitzvot pour aller voir le roi lui-même, il arrive en face du roi, et il se rend compte que finalement, toutes les murailles, ce n'était qu'une illusion. Si les murailles sont une illusion, le trésor du roi, c'est aussi une illusion ou pas?
Forcément.
Forcément. Donc tout ça, c'est une illusion. C'est quoi ce tout ça? Tout ça, c'est donc
le monde.
Le monde concret. Le monde que nous rencontrons en face de nous. Le monde dans lequel nous vivons. Le monde spirituel aussi. Le monde des mitzvot. Le monde de la halakha. Comment ça s'appelle? Politique de l'individu. Oui, l'individu est très solitaire. Il est le seul par rapport à tous les autres. Et il est surnommé le fils, alors que tous les autres sont en fait les sujets du roi. Il est vraiment solitaire.
Et donc vivre en communauté, l'intérêt évidemment de trouver le trésor, c'est de ressentir la communauté. Ils sont plusieurs apparemment.
Mais qui dit qu'il peut penser qu'il a trouvé le trésor, mais comment objectiver le fait qu'il ait trouvé le trésor? C'est-à-dire comment, puisque...
Il n'a pas trouvé le trésor, lui. Il n'a pas trouvé le trésor.
Le fils qui pense qu'il est le proche possible du roi et qui pense que tout est illusion. Bon, c'est donc que lui pense qu'il est vraiment au plus près. Mais comment nous on peut savoir qu'un autre être n'est pas au plus près ? C'est-à-dire comment il n'y a pas une vision unique ? Qu'est-ce qui fait la différence entre deux individus qui disent eux-mêmes qu'ils sont au plus près ?
C'est possible. Je sens le metteur en scène derrière. Je vois quelque chose de très visuel dans ce que vous dites. Non, je vois vraiment. Donc vous dites, voilà, la caméra ou le projecteur est donc sur ce fils qui, lui, il s'approche. Et nous voyons donc cet angle de vue. Mais en fait, on peut également découvrir qu'il y a un autre angle de vue qui nous montre qu'il y a également quelqu'un d'autre qui fait le même chemin.
Non, c'est
possible.
C'est parce que j'entends que c'est très... En fait, j'essaie de... C'est bouleversant ce que vous dites. C'est assez tentant. De se dire, puisque tout est illusion, y compris les mises-votes, y compris... Donc, si tout est illusion, je peux vraiment m'illusionner, quoi. Y compris dans l'idée que je sois au plus près.
Et exactement, puisque donc, si tout est illusion, comment se fait-il que moi, je suis là ? Est-ce que
voilà,
moi, je... Exactement. Exactement.
Je m'objective dans cette illusion.
Exactement, mais...
Si tant est que ce soit possible.
On revient dans 2 minutes là-dessus. Ok, on revient dans 2 minutes là-dessus. Essayons un instant de voir. Comment se passe ? Regarde, essayons encore une fois de voir la mise en scène, d'accord ? Donc on voit, donc, il arrive, il franchit encore une entrée, et encore une entrée, encore une porte. Il voit le roi, il voit le trône, il s'approche, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il s'approche, qu'est-ce qu'il se passe ? On a dit, il n'y a pas cette rencontre-là. Il n'y a pas le fait d'être vraiment avec le roi, finalement. Il y a le fait de comprendre que, lorsque je regarde derrière, c'est-à-dire lorsque je ne regarde pas le roi, mais en fait, j'arrive à ce regard parce que je suis en face du roi, je comprends que tout était une illusion. Et moi, je me trouve de l'autre côté. Et c'est ça, donc, ce qui se passe. Cet état, donc, de conscience... dans lequel j'ai conscience que tout est illusion, je ne peux pas l'avoir lorsque je suis en dehors. Je ne peux l'avoir que lorsque je suis dedans. Mais il ne s'agit pas simplement d'un parcours qu'il faut franchir. Il ne s'agit pas de différentes épreuves physiques qui se trouvent là. Allez, encore une porte. Il s'agit d'un travail, la conscience de cet homme, qui itametz, par rapport à son désir de voir le roi, qu'il emporte, il continue. Et à ce moment-là, il se rend compte que finalement, il n'y avait rien. Mais alors, s'il n'y avait rien, peut-être qu'il n'a aucun mérite non plus. Ou peut-être que non, c'est tout le contraire. Il a réussi à franchir ce qu'on n'arrive pas à franchir. Je voudrais donner 2 petits exemples pour essayer de mieux comprendre au niveau du visuel. Le premier exemple... ça va vous faire sourire. Harry Potter. Vous vous rappelez Harry Potter ? Ceux qui ont lu Harry Potter. Harry Potter est un jeune garçon qui doit rejoindre donc la fameuse école des magiciens. Et pour cela, il doit aller à la gare sur le quai 9,5, je crois. Il arrive à la gare. Il voit le quai 9, le quai 10. Il n'y a pas de quai 9,5. Ce n'est pas possible. Il me dit, mais sur l'invitation, il y a 9,5. Ce n'est pas possible. Il ne comprend pas, il ne sait pas. Et il se rend compte qu'il voit aussi de temps en temps des gens qui arrivent avec les valises et qui s'approchent, qui tout d'un coup disparaissent. Alors il tente le coup également. Et il arrive, et il franchit. Je n'ai pas vu le film, hein. je l'ai lu uniquement, mais dans le film, ça doit être intéressant. Et lorsqu'il franchit, il rentre dans un chemin qui n'existe pas, eh bien il franchit donc cette porte invisible, et il se retrouve dans une autre gare où il y a écrit effectivement 9,5. Il n'y a pas 9, il n'y a pas 10, il y a 9,5, et c'est le train qui l'attend.
On a ça dans la vie sur le
pays. Ça, je ne me rappelle pas. Je crois que c'est la même image. C'est le fait d'aller vers ce qui est impensable. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas, ce n'est pas ça. Et pourtant, lorsqu'on arrive là-bas, eh bien, il s'avère que c'est tout simple. C'est quelque chose d'autre et quelque chose de différent. Mais que se passe-t-il par rapport à ma conscience ? Pour ça, je voudrais un autre exemple. Lorsque nous rêvons tous, n'est-ce pas ? Nous rêvons. Est-ce que nous avons conscience que nous rêvons ? Ou est-ce que nous rêvons des fois que nous rêvons ? ça peut nous arriver. Mais peut-être que même si je rêve que je rêve, peut-être que c'est également un rêve. Rappelons-nous dans les bandes dessinées de notre enfance. Lorsque quelqu'un rêve, c'est les petits ronds, là, n'est-ce pas ? C'était le petit rond, c'est ça. Il rêve, il est en train de penser. Mais peut-être également que la personne qui est couchée avec le petit rond, peut-être également ferait partie d'un plus grand dessin avec quelqu'un qui est en dessous et qui dort également, et qui est en train de rêver de ça. Je crois que c'est à peu près la même chose. Il y a une ressemblance entre ces deux notions. C'est le fait de cette conscience, d'être conscient, mais en fait, c'est quelque chose d'autre. Ce que ce machal nous raconte, en fait, ce que ce machal essaie de nous dire, c'est que le monde existe, oui. Le monde n'existe pas, oui. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Le monde existe, oui, puisque nous existons. Voilà, je sens, c'est là, j'ai mal, aïe. On me dit quelque chose d'agréable, ça me fait plaisir. On me dit quelque chose de désagréable, je me sens humilié, comme disait au départ. Je mange quelque chose de salé, je sens le goût du salé, quelque chose de sucré, je sens. Le manque existe. Cette expérience, elle est véridique. Mais il y a également une possibilité de rentrer dans un autre niveau d'existence, qui n'est pas simplement un niveau d'éthique personnelle, de moi, comment est-ce que je décide de vivre ma vie, mais qui repose donc sur une conception différente du monde, dans lequel il y a en fait une certaine négation du monde, ce qu'on appellera acosmisme. Le cosmos n'existe pas. Pas parce que le monde est chamboulé, c'est un anticosmos. Non, acosmisme, il n'existe pas, il n'est pas. Mais on ne peut pas présenter, on ne peut pas dire cette chose-là en soi. C'est une absurdité, puisque si je la dis, ça veut dire que moi, j'en ai conscience, et le moi existe, et donc le moi existe, donc le moi ne peut pas dire que le monde n'existe pas. Il s'agit d'une idée de base qu'on retrouve dans la Kabbale, qu'on retrouve également dans la pensée chassidique, qu'on retrouve également dans la pensée mitnagdit, dans le livre de Rabbi Chaim Ivolojin, Nefesh HaChaim, l'âme de vie. Rabbi Chaim Ivolojin, élève du Gaon de Vilna, et qui parle de ces deux dimensions du monde, mitsido ou mitsidenu. Mitsidenu, de notre côté, et mitsido, du côté de Dieu. Mitsidenu, Omer Rabbi Chaim Ivolojin, de notre côté, le monde existe. Mais mitsido, il n'y a pas. Et comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, c'est ça l'interprétation du Tzimtzum. Le Tzimtzum, pas comme étant un acte de création. Le Tzimtzum, c'est la réduction de la présence divine pour créer le monde. Le Tzimtzum, pas comme un acte historique qui s'est passé il y a telle et telle année. Le Tzimtzum, pas comme un événement spatial qui s'est passé pour créer le monde, mais le Tzimtzum comme étant un état de conscience qui fait que nous savons que c'est ça et en même temps nous savons que ce n'est pas ça. Nous savons que mitsidenu, de notre côté, le monde existe, que de notre côté, il y a un sens au bien, au mal, à la mitzvah, à la avera, à la Torah et aux autres sciences. De notre côté, oui, de notre côté, il y a des lois, de notre côté, c'est clair. Mais de l'autre côté du monde, achizat enayim, c'est une illusion. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'illusion ? L'illusion, c'est ça. C'est quelque chose qui nous semble exister, mais qui, en fait, n'existe pas. Mais elle semble quand même exister. L'illusion, ce n'est pas le vide, ce n'est pas le néant. C'est quelque chose qui semble être, mais qui n'est pas. J'invite...
Oui, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que... Une des questions qui se pose, en tout cas, c'est est-ce que de se mettre du côté de Dieu, ça a un sens pour une créature par Dieu. Est-ce que notre obligation, notre sens, disons, le sens de notre humanité n'est pas de vivre au niveau humain, donc au niveau de notre côté, hein? Alors que quand on parle d'un de l'autre côté, c'est le côté de Dieu, est-ce que c'est notre vocation?
Exactement. Exactement. De quel côté nous sommes? Lorsque Beno Yechido, le fils en question, commence son parcours de vie, il le commence parce qu'il a entendu l'appel du roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'appel du roi? L'appel du roi, c'est de notre côté ou c'est du côté de Dieu? Donc c'est de notre côté, n'est-ce pas? Donc, de notre côté, il y a un appel qui est d'aller vers le roi, qui est d'aller de comprendre que ça n'existe pas. Mais en fait, moi, oui, j'existe, mais en fait, moi, je comprends où ça se passe, jusqu'où j'arrête. Alors, effectivement, je reprends maintenant donc, le premier texte que nous avons vu. Le premier texte, au départ, qui était un texte qui parlait plus d'une éthique. Et maintenant, donc, j'essaye de voir la base philosophique qu'il y a derrière cette éthique. Le premier texte nous disait... C'est une très grande madriga. C'est un très haut niveau. C'est très loin de notre existence. C'est très loin, Yetzirara. Il n'a pas le Yetzirara. C'est très différent. Oui, alors effectivement, c'est très différent. C'est un ange. C'est même pas un ange. Okay, c'est même pas un ange. C'est je ne sais pas ce que c'est, etc. Quel sens ça a par rapport à moi? La dernière fois que j'ai enseigné ce texte, c'était il y a 6 mois. Vous comprenez ce que ça veut dire, il y a 6 mois en Israël. C'était donc après le 7 octobre, et c'était après, j'ai enseigné ce texte à un groupe de jeunes étudiantes qui vivent dans une midrasha. Une midrasha, c'est comme une yeshiva, mais pour les jeunes filles, qui se trouvaient dans le sud du pays. Et donc, suite aux événements du 7 octobre, ils ont tous été replacés donc, dans la région de Jérusalem. Celui qui dirige cette midrasha est un ami à moi. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider, etc. Il me dit, écoute, je suis là avec donc une trentaine de jeunes filles, mais tous mes enseignants faisaient partie également donc du Sud, et chacun à son endroit. Est-ce que tu peux venir? Je lui dis, oui, je viens avec plaisir, évidemment, bénévolement, etc. Ils vont, alors qu'est-ce que tu vas enseigner? Je dis, c'est difficile de savoir quoi enseigner lorsqu'on ne sait pas, de qui il s'agit, et surtout on ne sait pas dans combien de temps. Est-ce qu'il s'agit d'une fois, deux fois, trois fois? Combien de temps est-ce que ça va durer? On était complètement dans un sentiment de ne pas savoir ce qui se passait, d'impuissance, et on ne pouvait donc rien prévoir. Je ne sais pas comment, je dis, écoute, moi je voudrais enseigner Chassidout. D'accord, viens enseigner Chassidout. Et j'ai pensé à ce texte-là, parce que je me suis dit que, Je sentais personnellement que c'est quelque chose qui... Alors, je vais dire l'expression tellement... Quelque chose qui donne des forces. Je sentais que c'était quelque chose qui donne des forces. Bien qu'il s'agisse d'un niveau très haut, très loin, etc., etc., mais ça donne une direction. Ça permet de respirer, de prendre un peu de distance par rapport à notre actualité qui était tellement brûlante, qui était tellement forte... Et de dire, ok, d'accord, respirons. Mais n'oublions pas, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Tout ça fait passer de ce Achizat Enaim. Ah, mais elle fait très mal, cette Achizat Enaim. C'est une hallucination qui nous est difficile. Nous nous sentons plein dedans. Nous ne sommes pas de l'autre côté. Nous sommes vraiment mitzidenu. Mais le fait de savoir qu'il y a un rêve, il y a celui qui rêve. Des fois, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Lorsqu'on est dans le cauchemar, ça fait mal. Mais le fait de savoir que c'est un cauchemar, ça permet déjà donc d'avoir une petite réserve et de santé. Et ce n'était pas évident. Bon, c'est très, je m'excuse de dire, c'est un pléonasme peut-être, mais c'était pas du tout évident pour ces jeunes filles de 19 ans, après ce qu'elles avaient vécu, d'aborder un texte pareil qui leur semblait donc tellement loin, éloigné de l'actualité. Mais peut-être que c'est dans ça, la force. Et nous revenons donc à la politique de ce peuple en exil. Cette force qui permet de voir lorsque la situation physique, lorsque la situation d'un peuple autonome, son gouvernement, sa terre, ses lois, son petit moi et son grand moi, lorsque tout ça est différent, dans une réalité différente, comment réagissons-nous ? Par rapport à d'autres possibilités d'une politique juive dans l'exil, la chassidoute, d'un certain côté, nous dit, pousse. Je m'éloigne. Je m'éloigne de l'histoire. Je m'éloigne de l'espace. Je m'éloigne du monde. Peu importe ce qui se passe. Pour moi, tout vient de Dieu. Pas dans le sens de la théodicée pour justifier, pour expliquer que même si c'est du mal, en fait... Non, pas par rapport à ça. Mais plus par rapport à retrouver cette plénitude, essayer de s'approcher en tout cas, pas de la retrouver, mais de s'approcher de cet état de plénitude spirituelle en disant, c'est pas simplement que je vois le roi en face de moi, c'est que je vois derrière et que tout est en fait une illusion. Alors, Il s'agit donc de voir, il ne s'agit pas de comment vivre la chose au quotidien, comment nous comporter au quotidien, mais avoir ça dans un certain endroit dans la tête, dans un certain endroit de la neshama, faire partie de, ça fait partie de notre vision du judaïsme et recevoir peut-être quelque chose de ça.
Je pense que le mot illusion serait...